VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, sommaire de cette édition du 7 mars 2017. 22 morts et une centaine de blessés dans une fusillade entre des réseaux rivaux de passeurs opérant en Libye. Au Niger, 5 gendarmes tués et 1 grièvement blessé dans une attaque lundi selon un nouveau bilan de l'armée. La presse gambienne proteste contre l'agression d'un journaliste par des sympathisants du président Adama Barrow. En visite en Somalie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la mobilisation internationale pour lutter contre la famine. Tir de missile de la Corée du Nord, Pyongyang dit s'entraîner pour frapper les bases américaines au Japon. Et Khartoum a exprimé son mécontentement après la signature par Donald Trump du nouveau décret sur l'immigration. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. 22 morts et une centaine de blessés dans une fusillade entre des réseaux rivaux de passeurs opérant en Libye. Jacques Aristide.
L'OIM s'appuie sur des informations reçues de ses équipes opérant en Libye. Elle estime que les victimes viennent d'Afrique subsaharienne et qu'il s'agit de migrants et non de membres des bandes criminelles impliquées dans l'accrochage. Depuis l'accord conclu il y a un an entre l'Union européenne et la Turquie, la route maritime entre la Libye et l'Italie est devenue la principale voie de migration clandestine vers l'Europe, aiguisant les intérêts des bandes criminelles qui menaient les traversées. Cela suscite toutes sortes d'activités dans le secteur des passeurs et a apparemment conduit à cette violente fusillade, d'après Joël Moulman, porte-parole de l'OIM. Depuis le 1er janvier, près de 16 000 migrants sont arrivés en Italie via la Libye, contre un peu plus de 9 000 sur la même période de l'année dernière. Quelques 3 000 d'entre eux ont été secourus en mer. Dans le même temps, 140 corps ont été rejetés sur les plages libyennes et 477 autres ont péri en mer.
Dans l'ouest du Niger, 5 gendarmes ont été tués et 1 grièvement blessé lundi lors d'une attaque dans la région de Tillaberi, selon un nouveau bilan de l'armée. La réponse immédiate des forces de sécurité a permis de repousser les assaillants et des opérations sont en cours afin de les neutraliser, a déclaré l'armée. Le syndicat de la presse gambienne a protesté ce mardi contre l'agression d'un journaliste par des sympathisants du président Adama Barrow, John Lyndon.
Keba Djefon du journal privé Foroya a été prise à partie dimanche lors d'une conférence de presse à laquelle participaient notamment le ministre des Affaires étrangères Ousseni Darbo et celui de l'Intérieur Maïf Fati selon des témoignages. Le journaliste dit avoir été agressé pour avoir posé une question sur un éventuel éclatement de la coalition formée autour du président Barrow à l'approche des élections législatives. Il a été frappé, puis sorti de la salle par un groupe de militants mécontents, selon son récit. L'attaque contre le journaliste Keba Djefon du journal Foroya est une attaque contre la liberté d'expression, en particulier la liberté des médias, a déclaré Saïkou Djamé, secrétaire général du syndicat de la presse gambienne. Cet acte barbare et illégal n'a pas sa place dans une société démocratique. Nous le condamnons et appelons les responsables des partis politiques, dont les militants ont agressé le journaliste, à prendre les mesures appropriées pour régler cette question, a poursuivi Saïko Djamé. Plusieurs journalistes ou militants ont dénoncé l'agression de Keba Djefon. Beaucoup ont invité le président Barrow, élu à la présidentielle du 1er décembre face à Yahya Djamé, à éviter les travers de son prédécesseur.
Famine en Somalie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui la communauté internationale à se mobiliser massivement pour éviter le pire. Morgane Guériec.
Il est possible d'éviter le pire, a déclaré à la presse Antonio Guterres après s'être entretenu à Mogadiscio avec le nouveau président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, élu le 8 février. Nous avons besoin d'un soutien massif de la part de la communauté internationale pour éviter une répétition des événements tragiques de 2011, affirme-t-il. La sécheresse ravage l'Afrique de l'Est et la Somalie est au bord d'une troisième famine en 25 ans. D'après l'AFP, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions qui souffrent de la faim. La Somalie fait face à une sécheresse qui pourrait devenir une famine si nous n'avons pas de pluie dans les deux prochains mois, a averti le président de ce pays privé depuis 1991 de pouvoir central. Les nouvelles autorités de ce pays rongé par deux décennies de guerre et de crises humanitaires à répétition ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale et les images de corps émaciés émergent dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011.
Un influent général sud-soudanais exilé depuis sa démission en février a annoncé la création d'un nouveau groupe rebelle dans le but de renverser le président Salva Kiir. Dans sa lettre de démission du 12 février, le général Thomas Sirio Swaka avait accusé le président de nettoyage ethnique et d'avoir transformé l'armée gouvernementale en armée tribale de l'ethnie Dinka. Dans un communiqué cité ce mardi par l'AFP, il a annoncé la création du Front National du Salut. Lancement ce mardi à Dakar de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. L'ONG a été présentée lors d'une conférence de presse des personnes à l'origine de l'initiative, notamment l'avocat français William Bourdon, le magistrat espagnol Balthazar Garzon et Aliuntin, responsable d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un lanceur d'alerte est un citoyen qui rend public des actes dissimulés de corruption, d'injustice, d'abus de pouvoir ou de menace à la santé publique, selon la PLAF. Le ministre des Transports nigérian Chibuike Rotimi Amaechi a assuré ce mardi que tout est prêt avant la fermeture pour travaux de l'aéroport d'Abuja, dont les vols seront redirigés vers Kaduna. L'aéroport de Kaduna remplacera celui de la capitale fédérale à partir de demain jusqu'au 19 avril. Les passagers devront relier les deux villes par la route ou le train. Des bus ont été mis à leur disposition, a précisé M. Amaechi, assurant que les travaux ne prendraient pas de retard. Et le cyclone tropical Enao atteint les côtes du nord-est de Madagascar avec des rafales atteignant plus de 290 km/h selon les services météorologiques. Les autorités ont décrété l'alerte rouge dans le nord de l'île. Enao menace Antananarive qu'il devrait atteindre mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a affirmé que ses tirs de missiles balistiques étaient un exercice en vue de frapper les bases américaines au Japon. Face à cette escalade, les condamnations ne se sont pas faites attendre. Salwa Jafari.
Les engins sont tombés dangereusement près du Japon, dans un nouveau défi à la communauté internationale et au président américain Donald Trump. Dr. Matthew Côté de l'Institut international des études stratégiques.
C'est certainement une véritable menace. En ce qui concerne la portée des missiles lancés hier, les quatre missiles balistiques ont une portée maximale supposée d'environ 1000 km, ce qui signifie que les bases japonaises sont certainement à portée de main. Les Nord-Coréens sont certainement capables de frapper le Japon.
Les résolutions de l'ONU interdisent à Pyongyang tout programme nucléaire ou balistique. Mais six volées de sanctions n'ont pas persuadé le régime de Kim Jong-un d'abandonner ses ambitions militaires. Ces tirs seraient une réponse aux exercices militaires annuels conjoints entamés par Séoul et Washington la semaine dernière. Donald Trump a affirmé en tout cas lors d'entretiens téléphoniques l'engagement à toute épreuve de son pays derrière ses alliés japonais et sud-coréens, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi à la demande de Tokyo et de Séoul pour discuter de la situation.
Les forces irakiennes ont accentué leur progression dans l'ouest de Mossoul, où elles ont repris au groupe État islamique notamment le siège du gouvernement provincial et le musée vandalisé par les djihadistes. La reconquête de trois quartiers a également été annoncée par Bagdad au troisième jour d'une nouvelle offensive lancée pour reprendre le dernier bastion urbain du groupe islamiste en Irak. En Syrie, un cessez-le-feu a été décrété jusqu'au 20 mars dans la Ghouta orientale, fief des rebelles à l'est de Damas, a annoncé l'armée russe dans un communiqué. Aucune violation de la trêve n'a été constatée depuis son entrée en vigueur, précise-t-il. Pour sa part, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé que des bombardements avaient visé Douma et Arasta, tout comme certains quartiers rebelles dans l'est de Damas. Une source haut placée citée par Al-Watan a assuré n'avoir aucune information sur un éventuel accord de trêve. Et les chefs d'état-major turcs, américains et russes ont examiné ce mardi en Turquie les moyens d'améliorer leur coordination en Syrie afin d'éviter des affrontements entre les forces qu'ils appuient contre le groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, les premiers essais techniques du barrage hydroélectrique de Soubré, construit par la Chine, vont débuter fin mars. Le barrage devrait être pleinement opérationnel en août. Long de 4,5 km, ce barrage est le plus grand centre de production électrique de la sous-région, avec une puissance de 275 MW. La puissance totale installée de la Côte d'Ivoire est de 1975 MW, fournie à plus de 70% par 4 centrales thermiques et près de 30% par 6 centrales hydrauliques. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, le barrage a été financé à hauteur de 15% par l'État ivoirien et de 85% par la Chine. Au Niger, la majorité parlementaire a rejoint l'opposition pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir les circonstances d'un transfert de 200 milliards de francs CFA sur un compte à Dubaï suite à une vente d'uranium. L'actuel ministre des Finances du Niger, Assoumi Massaoudou, est cité dans cette affaire. L'agence de statistiques éthiopienne a annoncé que l'inflation est passée de 6,1% à 7% en février. Plus inquiétant, l'inflation sur les produits alimentaires, dont le riz et les légumes, est lui passée de 5 à 7,8%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Coup d'envoi 19h45, temps universel. Pas sûr qu'Arsenal croit en un improbable comeback. Défaite ce week-end à Liverpool 3-1. L'équipe londonienne ne se fait guère d'illusions face au Bayern qui l'avait laminé 5-1 à Munich. L'autre rencontre de la soirée, Real Madrid contre Naples. Une défaite pour les Napolitains 3-1 à l'aller. Ça va être dur, d'autant que le tenant du titre peut compter sur le retour dans le groupe de Cristiano Ronaldo.
Et mercredi, c'est au tour du Barça de tenter l'impossible.
Oui, le FC Barcelone doit éviter de devenir fou et procéder avec patience mercredi pour tenter de remonter 4 buts de retard face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est ce qu'a estimé ce mardi l'avant-centre Luis Suarez, jugeant ce défi compliqué mais pas impossible. L'autre rencontre mercredi, Dortmund, qui avait été battu 1-0 par le Benfica à Lisbonne.
Ibrahimovic suspendu avec Manchester.
L'attaquant vedette a été suspendu 3 matchs pour comportement violent, c'est ce qu'annonce la Fédération anglaise de football. Le Suédois de 35 ans, qui avait donné un coup de coude à un défenseur samedi en Première Ligue, n'a pas contesté l'accusation. Il est donc automatiquement suspendu avec effet immédiat dans toutes les compétitions domestiques. C'est ce que précise la Fédération anglaise. Ibrahimovic manquera donc l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre lundi soir contre l'actuel leader de la Première Ligue, Chelsea.
Et le CIO à nouveau dans la tourmente, Nicolas.
À moins de 2 mois des visites à Los Angeles et Paris, candidate au JO 2024, la démission du président de la commission d'évaluation, le Namibien Frankie Fredericks, pour des soupçons de corruption, met le CIO sous pression. Dans un article, le quotidien français Le Monde avance que Frankie Fredericks a reçu un versement de près de 300 000 dollars le jour même de l'attribution des Jeux Olympiques par le Comité international olympique. C'était à Rio le 2 octobre 2009 à Copenhague.
On termine par la NBA et championnat de basket nord-américain.
Avec 39 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, Kawhi Leonard a permis aux Spurs de San Antonio de s'imposer face à Houston, 112-110. Finaliste la saison dernière, Golden State a confirmé sa mainmise sur la conférence Ouest. Victoire 119-111 contre Atlanta, 24 points pour Stephen Curry. Et puis dans les autres rencontres de la soirée, les Knicks de New York ont dominé Orlando, 113-105, tandis que les Bulls de Chicago ont une nouvelle fois trébuché, cette fois face à Détroit, 95-109.
Merci Nico.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. En Centrafrique, poursuite du processus de réinsertion des ex-combattants à Bria, dans le centre du pays. Un millier d'ex-rebelles Séléka sont engagés dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ils apprennent de nouveaux métiers et construisent des bâtiments dans la ville. Voici un reportage de notre correspondant Freeman Sipila qui s'est rendu sur un site d'activité à Bria.
Plus d'une vingtaine d'ex-combattants, hommes et femmes, sont mobilisés ici aux abords de la Coteau, le grand cours d'eau de la région. Certains fabriquent des briques, d'autres entassent du sable sorti de l'eau. Ces matériaux ont déjà servi et serviront encore à la construction de certains bâtiments dans la ville. David Didier Datila, premier superviseur du groupe.
Dans le cadre de cette opération, nous avons construit une case de passage à l'aéroport depuis 1976. C'est pour la première fois que nous avons construit une case de passage à l'aérodrome de Bria. Et en plus de cela, j'ai fait une demande. On a construit une mosquée au quartier Issendele 7. Et on a réparé un peu l'église de Issendele 4. En plus de cela, on a construit deux maisons de chefs qui étaient détruites par les événements. On a réparé les caniveaux, les nettoyages des bâtiments de service, la préfecture, la gendarmerie et la police, etc. etc.
Yamende Chantal, Gouné Dako David, Gotoa Chancelin, présent.
Un contrôle physique de chaque élément est fait par les responsables. Le projet Pré-DDR est initié à Bria en octobre 2015 par la MINUSCA. Ici, les bénéficiaires perçoivent chaque deux semaines une somme plus ou moins à 30 000 francs CFA. Cette initiative a positivement impacté leur comportement. C'est ce qu'explique le superviseur.
Après toutes ces périodes-là, il y a beaucoup de changements. Les combattants constatent un léger changement. Il y a le calme, d'autres font l'air épargne. Leurs activités sont bien d'ailleurs. Ils sont bien assis. Il n'y a pas de braquage dans les quartiers. Il n'y a pas de banditisme. D'autres, ils sont concentrés seulement à cette activité.
Khadidia Catherine a combattu dans l'ex-rébellion de la Séléka avec cette activité de pré-DDR. Elle explique n'avoir plus l'envie de reprendre les armes.
Nous vivons mieux aujourd'hui. Nous avons décidé de déposer les armes pour retrouver la paix. Nous allons apprendre de nouveaux métiers pour soutenir nos familles. Par exemple, pour nous les femmes, on peut apprendre la couture. Je ne reprendrai plus les armes. À présent, je me considère comme civile.
Il y a encore quoi?
Plusieurs modules sont au menu de la formation proprement dite, prévue pour démarrer au mois d'avril prochain. Chaque ex-combattant suivra des cours de son choix, notamment dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la couture, de l'informatique ou encore de la création des activités génératrices de revenus. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République du Congo, près de 20 000 réfugiés centrafricains installés par le HCR dans le département de la Likwala depuis 2014, essentiellement dans le district de Bétou, cultivent le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. C'est ensemble qu'ils traversent les difficultés liées à l'assistance humanitaire et espèrent rentrer un jour chez eux. Notre correspondant Nguelan Goussou leur a rendu visite à Bétou.
Le ACR a reçu et installé depuis 2014 quelque 19 500 réfugiés centrafricains dans la Likwala, essentiellement dans le district de Betou. C'est à une centaine de kilomètres de Bangui. Malgré l'assistance apportée par les agences humanitaires et les populations congolaises locales, les plaintes ne manquent pas dans les sites, comme ici, au site du 15 avril à Betou.
Non, par rapport à l'absence du riz, il n'est pas partagé. Le site vraiment est en chaos parce que c'est le riz qui anime le site.
Pendant l'événement qui était passé à Bangui, moi j'avais perdu mon mari. Donc moi je suis veuve, c'est pour cela qu'on m'a donné petit riz comme ça, ça peut m'aider avec mes enfants.
Au début seulement comme ça, il n'y a pas de microcrédit, il n'y a pas d'activité, mais nous sommes toujours comme ça.
La plupart de ces réfugiés sont arrivés au Congo-Brazzaville à la suite d'un conflit armé interreligieux. Après 3 années passées à Betou, la tendance est plutôt à l'unité.
Nous avons essayé de faire plus d'efforts. Aujourd'hui, avec les musulmans, nous mangeons sur la même table, nous cultivons ensemble, on se balade ensemble, on travaille dans les mêmes lieux de travaux.
Bon, la plupart des musulmans sont en quartier parce qu'elles n'aiment pas vivre ici. Oui, c'est bon de causer ensemble, même de vivre ensemble en quartier.
Mon nom qui s'appelle Haroun Zakaria, moi je suis musulman. L'ambiance est bonne entre chrétiens et musulmans, pas de quoi.
Donc ce qui s'est passé au pays, vous avez oublié ici?
Non, on a tous oublié ça déjà, nous sommes bien.
Les réfugiés appellent à la normalisation de la situation à Bangui pour entamer leur retour au pays.
Là, on est encore dépensé sur notre pays. Donc, il faut prier toujours pour retourner en notre pays.
Si, on est mieux que ce soit en fait. Ce qui freine en fait, c'est quoi? C'est le processus de paix qui est en RCA. Vous voyez, la RCA aujourd'hui, bien, au-delà de tous les efforts que le système mondial essaie de mettre sur pied, mais le centrafricain n'a pas encore compris que bon, il faut qu'on arrête de tourner les armes.
Le ACR suit la situation de près, d'après Mohamed Nafian, le chef du bureau du ACR à Betou.
À l'heure où je vous parle, pour les RCA, ces conditions ne sont pas encore réunies et nous n'avons pas encore fait cette tripartite. Parce qu'il faudra qu'il y ait des GONC, des visites, etc. Pour l'RDC, il pourrait y avoir une tripartite pour ce qu'est l'autre, pour voir comment on peut leur faciliter. Mais cette année surtout, nous sommes très sur les réfugiés rwandais, parce qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugié.
On dénombre actuellement quelque 35 000 réfugiés dans la région, essentiellement des Centrafricains, des Congolais de RDC, près de 13 000 individus et environ 2 000 Rwandais. Depuis Betou, à l'extrême nord du Congo-Brazzaville, Nguela Ngoussou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Soudan s'insurge contre son maintien sur la liste des 6 pays visés par le nouveau décret sur l'immigration du président américain Donald Trump. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le nouveau décret du président Trump suspend pour 90 jours l'admission aux États-Unis des ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans, notamment en ce qui concerne l'Afrique, la Libye, la Somalie et le Soudan. Il gèle pour 120 jours l'arrivée de tous les réfugiés sans distinction d'origine. Khartoum avait amorcé un processus de normalisation avec Washington et la levée partielle par l'ancien président Barack Obama des sanctions américaines avait fait espérer un dénouement rapide de ce dossier, explique Mohamed Nagy, rédacteur en chef de Soudan Tribune, joint à Paris.
Au mois de décembre ou un petit peu avant, le département d'État, il a fait un communiqué de presse où il a loué les efforts de Khartoum. Ils ont commencé par reconnaître donc sa coopération avec les États-Unis dans le contre le terrorisme. Après, il y avait un deuxième communiqué qui saluait les efforts de Khartoum par rapport à permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux zones de guerre et avec les rebelles, etc. Donc, jusqu'à maintenant, les deux pays sont toujours en train de travailler pour préparer la levée des sanctions qui doit avoir lieu normalement, si tout va bien, à la fin du mois de juin prochain. Donc, c'est dans cette perspective où Khartoum se pose la question et dit est-ce qu'il y y a un setback, si j'ose dire, en anglais.
Un recul.
Est-ce qu'il y a un recul dans le processus ou qu'est-ce qu'il arrive?
Dans les camps de réfugiés du Kenya, l'inquiétude est vive. Chelia Rose, jeune sud-soudanaise de 25 ans, qui vit dans le camp kenyan de Kakuma depuis 15 ans, espérait venir étudier aux États-Unis, puis retourner aider son pays d'origine.
Les personnes désespérées gardent encore espoir, mais cette interdiction leur fera perdre cet espoir. Je ne me sens pas bien parce que je n'aurai pas cette chance, alors que j'espérais l'avoir pour réaliser mon rêve.
Maintenir la Somalie sur la liste noire ne peut que nuire aux efforts antiterroristes contre les militants d'Al-Shabaab, estime pour sa part Mohamed Abdoulaye, étudiant somalien vivant à Nairobi.
Une fois que vous ajoutez la Somalie à la liste, cela renforcera l'idéologie d'Al-Shabaab. Le groupe dira, si les États-Unis qui soutiennent votre gouvernement vous interdit de visiter leur pays, que feront-ils d'autre? Al-Shabaab aura ainsi de nouvelles recrues contre l'Occident.
Diverses organisations de défense des droits humains disent que le nouveau décret du président Donald Trump fait des réfugiés des boucs émissaires et signale aux musulmans qu'ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
La majorité républicaine du Congrès américain a dévoilé hier son projet d'abrogation d'Obamacare, le système de santé mis en place par Barack Obama. La bataille est donc lancée pour introduire un nouveau texte élaboré avec l'entourage de Donald Trump. Mais déjà, une partie des républicains s'oppose à cette réforme qui ne garantit pas le maintien des acquis d'Obamacare. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Surtout les démocrates ont tous voté contre. Le problème, c'est que Obamacare a donné l'assurance médicale à 20 millions de personnes qui n'avaient pas une assurance médicale avant. Donc c'est un grand succès pour Obama. Ce projet de loi veut réduire le rôle du gouvernement, c'est-à-dire les subventions surtout. Et il y a des gens qui croient qu'il y a un danger, que ça va obliger certains gens, surtout dans la classe ouvrière, de ne plus avoir une assurance. Donc il y a un grand argument devant nous avant que ce soit loi.
Vous dites que les démocrates ne vont pas approuver cette réforme, mais la première opposition est venue des républicains eux-mêmes.
Je suis sûr qu'il y aura certains républicains qui vont voter contre. Ils vont voter contre le projet de loi comme il est maintenant. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de changements avant que ce soit loi. De toute façon, le président Trump a promis que les gens ne vont pas perdre leur assurance médicale.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine précipitation de la part des républicains pour opérer cette réforme?
Oui, ils sont allés assez vite parce que c'était une question idéologique de la droite. Mais à mon avis, il fallait commencer avec l'infrastructure. Il y a un grand besoin de réparer des routes, des ponts, des barrages, et ça crée des postes.
John Boehner disait que c'était très compliqué, même impossible de remplacer Obamacare.
Déjà, ils ont gardé certains éléments d'Obamacare. Par exemple, on ne peut pas refuser une assurance maladie à quelqu'un qui était déjà malade. Et aussi, les enfants adultes peuvent rester sur l'assurance de leurs parents jusqu'à l'âge de 26 ans. Et donc, ils vont garder ça, ces éléments importants d'Obama. À mon avis, ils vont finir, pas par supprimer Obamacare, mais par réparer les éléments qui n'ont pas bien marché.
Mais ce nouveau projet supprime l'obligation universelle de s'assurer.
Mais ça aussi, c'est ridicule, parce que si vous supprimez l'obligation de s'assurer, il y aura des gens en bonne santé qui ne vont pas s'assurer. Il y aura seulement les gens malades qui vont s'assurer. Donc, ce n'est pas viable économiquement.
Herman Cohen, ancien officiel américain, a été joint à Washington. C'est C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la console, Nachouane Calais. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.